CFM Villefranche, le mag.
Le mag, oui alors, bonjour à toutes et à tous. Le mag Aveyron, de beau lundi, on parle de santé, de bien-être, de fleurettes et pâquerettes. Pour un petit peu plus tard avec Didier Vallet, sommité fleuri de la biodynamie et spécialiste des plantes aromatiques et médicinales. Et puis d'assiettes pour commencer, comme tous les lundis depuis quelques années maintenant, avec Karine Weck, nutritionniste, diététicienne, intervenante en goût. Donnez-moi un V, un E, un Q, un U, un on a Karine juste avec en studio.
Et bonjour David et bonjour. À tout le monde.
Est-ce que cette semaine encore vous iriez jusqu'à nous dire de quoi vous allez nous parler aujourd'hui
Si vous insistez, allez. Écoutez, ok, j'ai décidé d'être sympa.
Je vous en serai reconnaissant à vie.
C'est gentil. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous parler du plastique.
Ah bah oui, le plastique.
Voilà, parce que le plastique aujourd'hui c'est bien documenté sur l'environnement. On sait que c'est un polluant. Je veux dire, à peu près tout le monde le sait aujourd'hui. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est si effectivement ce plastique qu'on ingère tous, ça aussi on le sait, mais ce qu'on ne savait pas jusque-là, c'est est-ce qu'on en retrouve trace dans notre sang ou pas, ou est-ce que c'est quelque chose que l'on élimine au fur et à mesure. Pour vous donner une idée des chiffres, vous savez que j'aime bien de temps en temps donner des grands repères comme ça. En 1970, on produisait 30 millions de tonnes de plastique, d'accord, ce qui paraît déjà un chiffre important en France. Et en 2015, j'ai pas de chiffre plus récent malheureusement, on était à 322 tonnes de plastique par an. D'accord, donc millions de tonnes, pardon.
Donc, quand on a du pétrole, on peut faire du plastique.
Et voilà, mais enfin, c'est pour dire que c'est quand même une industrie qui a considérablement augmenté. Et aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il est temps de se poser les bonnes questions, parce que le plastique est un matériau très mal recyclé. Il s'accumule dans l'environnement et donc, bien entendu, dans nos corps aussi. D'accord.
J'ai essayé d'arrêter les bouteilles en plastique, les bouteilles d'eau en plastique, mettre ça dans une bouteille en verre, boire l'eau du robinet. C'est dur, je me fais tout le temps piéger. Mais allez, un pack d'eau quand même.
Pourquoi c'est dur
C'est le réflexe, mais il faudrait des pancartes pour dire non, ne prenez pas ces packs d'eau en plastique.
D'autant plus que, quand même, je le rappelle, l'eau du robinet est quand même une des choses que nous ingérons qui est le plus surveillée au niveau alimentation dans sa grande définition. Et pour preuve, dès qu'il y a un problème sur un réseau d'eau, pouf, la préfecture coupe. Et donc il n'y a plus d'eau comestible en fait on ne craint rien à boire de l'eau du robinet. Après je vous rejoins peut-être, ça peut être une question.
Il y a des goûts des fois,
voilà,
selon.
C'est le goût, mais en tous les cas en termes de sécurité il n'y a pas de souci. Donc je trouve ça quand même dommage. Et puis je fais aussi une deuxième petite aparté, l'eau du robinet est quand même beaucoup moins chère que celle que l'on achète en bouteille, que ce soit de l'eau minérale, de l'eau de source ou autre.
Une petite carafe Brita derrière et puis roule, ça neutralise beaucoup trop peut-être. Il n'y a plus de goût du tout, l'eau, il n'y a plus de saveur.
Et non seulement ça, le goût, vous avez raison, mais aussi certains minéraux qui sont quand même intéressants de retrouver dans l'eau, là du coup ça les filtre aussi. Donc voilà.
Faut manger le filtre.
Voilà, faut manger le filtre. En tous les cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça, c'est des gastro-entérologues qui étudient ces choses-là. On sait que chez la plupart d'entre nous, si on fait une étude des selles, on retrouve des microparticules de plastique. Donc, c'est quand même ennuyeux. Alors, il n'y a pas que l'alimentation, évidemment, puisqu'on disait à l'instant qu'il y en avait dans l'environnement.
Les emballages,
etc. Mais cela dit, dans toutes ces microparticules de plastique qu'on va retrouver dans les selles d'un humain, 95% viennent quand même justement des emballages des aliments. D'accord. Par exemple, polypropylène des bouchons de bouteilles, là, vous savez. Le polyéthylène dans les bouteilles, on en parlait à l'instant. Et puis également d'autres plastiques qui vont être utilisés plus typiquement pour des gobelets en plastique, des sacs plastiques, ou vous savez, les emballages par exemple dans les fast-foods, les emballages des hamburgers, des frites, des nuggets, tout ça. Donc là, on retrouve aussi du plastique, donc je trouve que c'est quand même pas génial.
C'est pas interdit tout ça aujourd'hui.
Alors tout n'est pas interdit, cela dit, rassurons quand même vos auditeurs, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment si ça nuit, et en tous les cas, on ne sait pas dans quelle mesure ça va nuire à la santé humaine. On en est à l'exploration de ça. On s'est beaucoup occupé de l'environnement, encore une fois, mais moins de ce que ça pouvait donner sur notre santé à nous. D'accord. En tous les cas, info intéressante, je trouve, la plupart des particules de plastique que l'on retrouve dans le sang des humains, parce que oui, donc maintenant on le sait, ça passe dans le sang, proviennent essentiellement de trois aliments. L'eau, vous aviez raison de le préciser, mais aussi tous les sels marins, donc les sels de cuisine, hein, autrement dit, vous voyez, et les bières. Et voilà.
Les bières.
Et les bières. Bon, là, c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle hein, que je donne, mais effectivement, dans les bières. Alors,
mais rapport à quoi le conditionnement
alors, non, à mon avis, la production hein, de houblon, oui. Voilà, et l'environnement. Donc, c'est dans ces trois aliments-là, en fait, que on retrouve ces particules. Et des consommations alimentaires basiques, on va dire, officielles de la population ont été analysées. Et quelqu'un qui mange tout à fait normalement, versus les recommandations, eh bien, on peut retrouver 5800 microparticules de plastique.
Et allez !
Et voilà. Donc, je trouve que ça fait beaucoup. D'accord ? Et donc, voilà, pour reprendre le début de la rubrique, on le sait aujourd'hui, ces particules se retrouvent dans le sang. Donc, c'est ennuyeux. Et il y a même des toutes petites microparticules, là. Et tout l'enjeu est de savoir aujourd'hui, ça s'appelle des nanoplastiques, tout l'enjeu aujourd'hui est d'essayer de comprendre est-ce qu'il peut y avoir endommagement ou en tous les cas affections possibles du cerveau, par exemple, du système digestif, il va sans dire, des reins ou d'autres organes, pourquoi pas, en tous les cas. D'accord.
D'où l'intérêt d'acheter en vrac, parce qu'il y a du plastique, il y en a partout. Regardez, un paquet de pâtes en grande distribution, de suite, bah, y a un emballage qui fait... Il peut y avoir du carton, mais souvent, il y a du plastique.
Hein, souvent, il y a du plastique encore. Hein,
c'est
encore
pour les gâteaux, enfin, ouais, pour beaucoup de choses.
Et alors, si, voilà, pour conclure un petit peu cette rubrique, néanmoins, par rapport au recyclage dont on parlait tout à l'heure, sachant quand même qu'en Europe, on est plutôt pas mal sur le recyclage. En 2012, désolé, j'ai pas des chiffres extrêmement récents, mais en 2012, on a recyclé 26% des plastiques jetables. Et par exemple, dans le même temps, aux États-Unis, c'était à peine 9% qui étaient recyclés. Donc, c'est déjà pas mal. On va finir sur une touche optimiste. Et puis, j'ai envie de dire, pour conclure définitivement, que c'est cette lignée aussi d'acheter des choses qui soient transformées, voire ultra transformées, parce que c'est quand même souvent là qu'on a les emballages les plus importants, en fait. Encore une bonne raison d'essayer d'être le plus possible dans le fait maison, et voilà.
Et vous qui chantiez il y a quelques années, le plastique c'est fantastique, et ben voilà le résultat. Bravo,
et ben voilà
Karine
le
Giusto.
Résultat. Mais ceci dit, David, je pense que vous l'avez chanté aussi.
Il y a des chances. Non, dans
si,
ma tête.
Si, vous avez à peu près le même
partagé.
Âge que moi, je le sais.
Allez, le plastique aujourd'hui dans la chronique alimentaire Diète News de Karine Weck, que l'on retrouve en podcast sous peu sur le site cfmradio.fr. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et pour l'instant, c'est la musique. En attendant, Didier Vallet, spécialiste des plantes aromatiques et médicinales. Et on continue à explorer cet univers fantastique. La biodynamie tous les 15 jours avec Didier.
CFM Villefranche, le mag.
We walked for hours in winter's arms. Broke your ankle, you fell with pride. You sent me a picture on which you cried. It's hard not to answer, I'll give a try. I'm selfish and jealous. Is that a crime? I'm selfish and jealous. The pleasure is mine. you'll share all your secrets, and I'll keep mine. Spend life together, just we and I.
CFM Villefranche, le mag.
Allez, vous venez de nous rejoindre suite de cette édition du magazine d'actualité avec en studio, comme annoncé, Didier Vallet. Bonjour Didier.
Bonjour David.
Le retour de Didier, c'est tous les 15 jours, le rendez-vous qu'on pourrait appeler des plantes, des hommes et de la biodynamie. Didier Vallet, sommité fleuri de la biodynamie et grand spécialiste des plantes aromatiques et médicinales. Il y a deux semaines, aïe, on s'est mis les mains dans le début de les préparations. En tout cas, on a survolé un peu les différentes préparations de la camomille. On en a fait des saucissons avec des boyaux. On approche des préparations en biodynamie dont on parle depuis un petit moment et autour des différentes plantes. La suite aujourd'hui et le prolongement très certainement.
Voilà, oui, totalement, un grand prolongement. Ça fait un moment qu'on y est quand même. On a mis du temps pour introduire ces préparations. Alors, préparation, comme je le disais l'autre fois, quand on dit préparation, on pense un peu à la préparation culinaire, ça veut dire qu'on transforme des éléments. Là, donc on va transformer les plantes qu'on aura précédemment ramassées, c'est-à-dire, je vous rappelle, la quille et millefeuille, la matricaire camomille, l'ortie, l'écorce de chêne, le pissenlit, la valériane. Pas mal parmi tout ça, ce sont des fleurs, mais aussi pour ne pas faire toujours mettre dans un même tiroir. Il y a l'ortie et le chêne, et pour nous surprendre, on récolte pas des fleurs, on récolte la partie entière, la partie aérienne pour l'ortie et l'écorce pour le chêne. Alors, comment ces plantes vont-elles être cuisinées ? Donc, on a simplement parlé un petit peu avec la matricaire, comme tu le rappelais, là, et les saucisses de matricaire.
Rien que l'image fait voyager. Hein.
Donc, il y a quatre plantes qui vont être mises dans des organes animaux. La dernière fois, j'ai expliqué un petit peu pourquoi ce rapport de la plante qui est surtout énergie vitale, qui n'a pas une sensibilité en elle. Elle a un petit peu extérieurement quand même, parce qu'elle communique avec les autres plantes, elle communique avec le monde des insectes, mais c'est toujours extérieur quelque part cette sensibilité. C'est pas comme pour un animal ou comme nous. Une sensibilité intérieure. Si elle est en sympathie avec une autre plante, c'est parce que les substances qu'elles vont émettre l'une l'autre par leurs racines vont se céder quelque part. Et quand elles sont en antipathie, quand elles se repoussent, c'est parce qu'il y a des substances qui sont excrétées par les racines qui gênent l'autre plante qui va s'éloigner, qui va pousser ailleurs. Hein. Il y a des plantes comme ça qui font des cercles autour d'elles, telles que les pervières, par exemple. Voilà, bon. Et donc, en mettant des plantes dans des organes animaux, on monte la plante à un niveau énergétique différent, quelque part. Je vais parler d'énergie, si on veut. Peut-être que c'est plus compréhensible pour de nombreux auditeurs. Le terme d'énergie ou de vibration, quelque part, on pourrait dire qu'un organe animal a une certaine vibration et qu'en mettant des plantes dedans, on va élever la plante à un niveau vibratoire supérieur, un peu plus... qui n'est pas seulement de l'énergie vitale, mais un niveau de sensibilité plus grande. Et on ne va pas prendre n'importe quel organe. La plupart du temps, on prend des organes qui correspondent à la plante, c'est-à-dire à ce que soigne la plante.
Au bienfait de la plante, oui.
Au bienfait de la plante, voilà. Alors, l'achillée millefeuille, par exemple, j'ai pu vous dire, quand on a étudié un petit peu ses propriétés thérapeutiques, qu'elle soignait les problèmes de vessie, entre autres. Et donc, on va la mettre dans une vessie. Alors, les animaux qu'on utilise sont la plupart du temps la vache, pour tout ce qui est des organes du système digestif. Mais pour la vessie, on va prendre un animal qui est très très lié à son environnement extérieur, quelque part. Et l'animal qui est le plus lié à l'environnement extérieur, c'est le cerf. Mmh. Le cerf est un animal, déjà, il fait des bois, contrairement à la vache qui fait des cornes, il fait des bois qu'il perd tous les ans, qui repoussent au printemps. Donc des bois, c'est quelque chose de végétal presque. Et son environnement, c'est les bois aussi. Il vit dans les forêts. Et c'est impressionnant de voir des vieux cerfs qui ont des bois immenses, comment ils courent dans la forêt entre les arbustes et tout. On se dit comment ils ne se prennent pas les bois dans un arbre. C'est comme s'il y avait une intégration totale dans leur milieu, quelque part. Donc, et là, on retrouve la qualité. J'ai pu vous parler aussi la dernière fois que l'achillée était en rapport avec la planète Vénus. La planète Vénus, c'est le symbole de l'énergie féminine, si on veut. Hein. Et l'énergie féminine, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie entre toutes choses. Donc, il n'y a pas un animal plus harmonieux que le cerf qui a... Alors, quand il brame, c'est un cri vraiment incroyable qui ferait froid dans le dos. Et d'un autre côté, il a une légèreté quand il se déplace, quand il court, quand il se déplace dans les forêts. Donc, c'est ces deux côtés qui mettent en harmonie quelque part. Un côté très, très rude et un côté très léger. Donc, voilà, des petites pistes de réflexion, disons, c'est pas toujours très facile. J'essaye de donner des petites images pour rentrer dans une certaine compréhension. Hein. Ça n'explique pas tout, mais voilà. Alors ensuite, la camomille, comme on l'avait dit et comme tu l'as rappelé, on la met dans des intestins. Et la matricaire camomille, c'est vraiment un adoucissant au niveau intestinal très, très, très important. Ça marche très bien quand on a des problèmes au niveau intestinal. Une tisane de matricaire, ça va vraiment très bien. Donc, on va faire comme on fait de la saucisse sèche ou de la saucisse grosse, disons, parce qu'on le met dans des boyaux quand même qui ne sont pas tout petits. On va prendre... Alors là, on prend des intestins de vache, parce que la vache... Et c'est l'animal qui est le plus dans la sphère digestive. L'animal, c'est un ventre, la vache, oui, quelque part. C'est un ventre. D'abord, dans sa forme, elle est un peu comme ça. Elle a double carburateur, deux estomacs. Et donc, elle commence à digérer dans un estomac. Ça remonte, l'herbe remonte jusque dans la bouche. Elle le rumine de nouveau et elle renvoie. Et donc, il y a une digestion vraiment particulière. Chez les ruminants, c'est vraiment l'animal parfait. Donc, on utilise la sphère digestive, donc les intestins, pour une autre plante, une autre partie du ventre, pour dynamiser la plante et lui transférer ses caractères de digestion de la vache. Donc, on a les intestins pour la camomille. Alors après, quand on passe à l'ortie, alors là, on va me faire mentir, parce que... Alors oui, ce que j'ai oublié de dire, peut-être que je vais en parler tout de suite, ces deux premières plantes, elles vont être mises dans le sol pendant les 6 mois d'hiver. On va développer un tout petit peu plus dans quelques minutes. L'ortie, lui, déjà, on ne le met pas dans un organe animal. On le mettra directement dans la terre. Et au lieu de passer seulement 6 mois dans la terre, il va passer 1 an.
Ah oui.
Il va passer un cycle solaire. Donc, l'ortie, lui, qui est plutôt en rapport avec le soleil et la lune, il va être enterré pendant, enfoui pendant un an. Et il va se transformer, et on sortira, à chaque fois on sort des sortes de compost de plantes. C'est plus la plante par elle-même. Quand on ressort les intestins, eh bien on trouve des intestins, mais ils sont noirs, c'est une espèce de terreau. On reconnaît encore un petit peu la forme des fleurs dedans, mais pareil pour l'achillée, et ainsi de suite. La quatrième plante qu'on utilise, c'est l'écorce de chêne.
Oui.
Alors cette écorce de chêne, comme le chêne qui pousse bien sur le calcaire, c'est beaucoup, beaucoup de calcium, de calcaire dans l'écorce de chêne. C'est une partie de l'arbre qui est la plus riche en calcaire. Et on va la mettre dans une partie de l'animal qui est la plus riche en calcaire aussi, c'est-à-dire le crâne.
Ah oui.
Tout ce qui est le squelette, ce n'est que du calcaire. L'os, c'est du calcaire. Donc, on va prendre le crâne d'un animal domestique, quelque part, et on va... l'écorce de chêne qu'on a finement broyée, on la met dans un crâne. Voilà. Et on ferme avec de l'argile pour pas qu'elle ressorte. Et ça va être enfoui pendant 6 mois aussi. Donc, en fait, dans le crâne, ça veut dire qu'on le met dans la calotte... qui englobe, qui contient le cerveau, normalement. Le crâne, c'est creux, il y a une cavité qui contient le cerveau. La cavité qui contient le cerveau d'une vache, c'est très, très important, contrairement à l'autruche qui a un cerveau gros comme son œil. La vache a un gros cerveau. C'est un animal sûrement très intelligent.
L'écorce, dans le crâne d'un animal.
Dans le crâne d'un animal. Ensuite, on a le pissenlit.
Ah oui.
Voilà, le pissenlit, quand même, t'allais l'oublier. Alors, le pissenlit, on le met dans un mésentère. Alors, le mésentère, c'est une partie du ventre. Alors, un mésentère de vache, c'est une membrane très vascularisée. Il y a plein de petits vaisseaux sanguins dans cette membrane. Donc, on va... Et c'est ce qu'on appelle la crépine aussi, quand on fait des fricandos. Les pâtés qui sont pas en boîte là, mais on les met dans une crépine. C'est cette peau qu'il y a qui maintient les intestins. Donc on fait des espèces de fricandos de pissenlit. Voilà. Donc on a les saucisses de pissenlit et le fricandeau de pissenlit. Et puis,
la valériane.
Et ben, il nous reste la valériane. Ouais. Et bien la valériane, alors, ces fricandeaux de pissenlit, on va aussi les enfouir dans le sol, donc on va en reparler tout de suite. Et la valériane, et bien, elle va nous faire mentir un peu comme l'ortie, parce qu'elle, on récolte les fleurs. Alors là, elle commence à fleurir, la valériane. Et donc... On récolte les fleurs et on les laisse un tout petit peu fermenter, un jour ou deux, avec un tout petit peu, un peu humecté. Et après, on les presse pour extraire le jus de ces fleurs. Et on obtient donc un liquide qu'on met en bouteille et qu'on va laisser fermenter, qui va donner un espèce de vin. Une espèce de vin de valériane qui ne sera pas pétillant, hein, mais ça devient assez sombre, un peu marron, et ça a vraiment une odeur de la valériane, de l'herbe à chat. Voilà. Alors, ces préparations, donc c'est encore des plantes qu'on a mis dans des organes ou pas dans des organes comme l'ortie ou la valériane. On va les enfouir dans le sol, alors à des endroits particuliers, mais bon, ça prendrait trop de temps pour décrire chaque endroit. Et à la Saint-Michel, c'est-à-dire à un certain moment, j'en avais déjà parlé
en
la dernière fois, fin septembre, donc c'est le début de l'automne en fait. Hein, c'est le tout début de l'automne. Et on va les ressortir. On les a ressortis le 22 avril. Là, donc elles étaient enfouies sur une ferme là, à la gare de Viore, au-dessus du Viore, là, pas loin d'ici. Et on les a ressortis le 22 avril, donc autour de Pâques, on les ressort. Voilà, c'est-à-dire, on les met en terre à l'automne, si on veut, et on les ressort au printemps.
Didier, je suis en panique totale. Ah. Je vois le chrono qui file, et je sens que là, tu es lancé, hein, tel une fusée, tel un bolide.
Bon, ben, donc on va s'arrêter là-dessus. On va vous laisser sur votre faim. Oui. Peut-être que pendant 15 jours, on va essayer de finir un petit peu, de dire certaines choses là-dessus. Et comme je vous ai dit, on parlera un petit peu des rythmes, justement, pourquoi... qu'est-ce que l'hiver, qu'est-ce que l'été, et ainsi de suite. On va revenir là-dessus.
Qu'est-ce que le temps, comment on l'utilise? On est frustré toutes les deux semaines d'être obligé d'intervenir et de couper. C'est quelque chose, hein, le temps et la gestion du temps.
Oui.
Merci Didier, à dans deux semaines pour les rythmes.
À dans deux semaines, David.
CFM Villefranche, le mag.